Et bonjour à chacun. Et franchement, ben voilà, vous savez quoi? On est peut-être tous partis en vacances, il y en a peut-être qui sont en vacances ici. Mais Dieu, ben, il n'est pas en vacances. Il n'a pas été en vacances cet été. On a chanté ce chant, « Jamais son amour ne s'endort ». Et ses promesses durent à toujours, c'est ça? À jamais, à jamais. Et ben, un peu comme Thibaut, bien sûr, pendant les vacances, on a tous des moments. Et nous, avec Deb, on s'est trouvés pendant 10 jours tout seuls à la maison. Et donc, même si on a été un peu occupés, ce qui m'a frappé, c'est quand même il y a un vide quand il n'y a plus les enfants à la maison. Et je me suis mis un peu dans cette pensée, comment Dieu, finalement, et on imagine Dieu qu'il est toujours lointain, qu'il est dans son ciel de gloire, bien haut. Et finalement, il est seul. Et ça m'a touché de voir, finalement, à travers la parole de Dieu, et de voir de quelle façon, finalement, il a eu ce désir aussi de paternité. Il a eu ce désir de faire des croyants, de faire des enfants de ces hommes et femmes qu'il a créés, ses propres enfants. Et comme Thibaut, moi, je suis été émerveillé par cette identité qu'il veut faire de chacun de nous, une entité d'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que je suis encore plus émerveillé de voir comment Dieu, par son esprit, arrive finalement, on ne s'est pas du tout concerté avec Thibaut pour son introduction et pour ce message que je veux apporter, mais c'est quelque chose qui m'a profondément touché pendant ces vacances, et j'ai mis du temps aussi un peu à réfléchir, parce que ce n'est pas évident d'assimiler et de réaliser quel est l'impact vraiment de notre statut, de notre entité d'enfant de Dieu en nous. Et parce que dans l'histoire de l'humanité, il est arrivé des temps où les hommes, Dieu s'était choisi un peuple. Et il voulait, avec ce peuple d'Israël qu'il s'était choisi, hein, on parle toujours de ce peuple élu, il s'était choisi ce peuple pour en faire un héritage ici de Dieu sur la terre. Et ce peuple, ces hommes, l'ont un peu, au fil des années et des temps, l'ont abandonné. Et à partir de là, Dieu a décidé à ce moment-là que ce soit lui qui viendrait. Il a envoyé son unique fils, Jésus-Christ, sur la terre. Et ça pour établir une alliance nouvelle. Et finalement, réunir grâce à son fils une nouvelle famille, avec tous ceux qui s'étaient perdus, tous ceux qui s'étaient éloignés de Dieu. Et cette passion de Dieu, on peut la voir dans la parole de Dieu, toujours, par la parabole du bon berger, qui va chercher sa 100e brebis perdue. Il laisse un peu à part les 99, et il va chercher cette 100e brebis qui est perdue, ou la drachme aussi qui est perdue, et que la femme va chercher en balayant toutes ses pièces, ou bien encore la parabole du fils prodigue. Lorsque le père est tellement heureux de voir son fils perdu revenir, qu'il en organise une fête. Toutes ces paraboles, elles sont concentrées dans un seul chapitre, chapitre 15, de Luc, et vraiment j'en profite pour faire de la pub pour ce chapitre, parce que si vous êtes en manque d'amour, relisez ce chapitre 15 de l'évangile de Luc. Il témoigne de cet amour vraiment inconditionnel du Père envers tous les hommes, et de toute sa passion qu'il met en œuvre vraiment pour les sauver. Et lorsqu'un seul de ces hommes ou femmes reviennent à lui, on ne peut même pas s'imaginer la joie qu'il y a dans le ciel. Car à ce moment-là, c'est une toute nouvelle vie qui commence. Et ce n'est pas seulement la vie finalement de quelqu'un que l'on a retrouvé après un long moment d'absence, mais c'est la vie d'un enfant que Dieu décide d'adopter pour l'intégrer dans sa famille. Alors il y a une grosse différence entre les hommes perdus et les enfants de Dieu. Les hommes perdus continue de chercher. Parce que Dieu a mis en eux, a mis dans tout homme, une quête. A mis, Ecclésiaste dit, la pensée de l'éternité, mais ce désir vraiment de retourner à Dieu, de retourner à son Créateur. Et la différence entre les hommes perdus et les enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu, eux, ont été trouvés. Et combien de personnes, vraiment dans ce monde, cherchent un sens à leur vie ? Ils explorent toutes sortes de spiritualités, d'expériences toutes plus grisantes les unes que les autres, dans l'espoir de trouver une sérénité ou une joie. Et évidemment, nous, on aimerait leur dire qu'il suffit de se laisser adopter par le Père, car c'est cela le sens vraiment de toutes nos vies, revenir à Dieu qui nous a créés. Alors il y a bien aussi des physiciens du CERN qui cherchent vraiment comment s'approcher au plus près de l'instant où le Créateur s'est manifesté. Mais le seul moyen possible et raisonnable pour nous de devenir enfants de Dieu, c'est de suivre Jésus, le Fils unique du Père, qui a subi à la croix le jugement de Dieu à ma place, jugement de Dieu à notre place. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, ce sont vraiment les réelles paroles de Jésus qui nous invitent à trouver ce chemin et à croire à cet unique moyen de salut qui nous fait rencontrer, qui nous fait connaître le Père. Alors, je voudrais faire un petit appel. Si vous ne croyez pas encore à ces paroles, n'y étiez plus, ne cherchez plus. Vous avez trouvé un sens à votre vie. Ne résistez plus. Laissez-vous simplement toucher par l'amour de Dieu qui veut être votre Père. Ce désir de paternité, le Père le partage avec son Fils qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie et grâce aussi à son sacrifice à la croix. Et bien, grâce à tout cela, on est bel et bien adopté et considéré. Une fois que ça, on l'a assimilé, une fois que simplement on s'est approché de lui, on est considéré comme ses propres enfants. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir justement, une fois que nous acceptons le Christ comme notre propre sauveur, ce que devenir enfant de Dieu, cela implique aussi pour nous. Pour la plupart d'entre nous, on a tous connu notre Père dans la chair, et c'est lui qui nous a donné une identité. Et non seulement, les psychologues diront aussi que nous nous construisons bien souvent en fonction du regard de notre Père et de la relation que nous avons eue avec lui. Tant que nous sommes enfants, notre identité dépend exclusivement de celle de nos parents. Et peu à peu, à partir de l'adolescence, nous commençons tous à manifester notre propre personnalité, mais pour nous forger notre propre identité. Mais en aucun cas, cela remet en cause notre filiation, le fait que nous sommes fils de notre Père. Et dans le cas de notre relation avec notre Père qui est aux cieux, les choses sont un peu différentes. Car du moment où nous percevons, où nous recevons la lumière ou la parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le verset 12 de la première évangile de Jean qui nous précise cela. Donc on va l'afficher. Donc verset 12, je commencerai par cela. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors je mets surtout ces deux versets-là en évidence, mais je vais les replacer dans le contexte. Car c'est le but de l'évangile de Jean, car c'est justement le tout début de l'évangile de Jean. Et cette introduction, je ne suis pas le seul, mais c'est une pure, à le considérer et à le réaliser ça, mais c'est une pure merveille. Et je lirai donc au début, le verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc dans cette introduction à son évangile, Jean témoigne de la puissance de la parole de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites, par elle et de la capacité vraiment que cette parole a de donner la vie. Et il en vient ensuite à cette vie qui est la lumière des hommes et qui, en venant dans le monde, vient éclairer tous les hommes. Et on le sait tous, mais l'énorme avantage que la lumière a, c'est dès qu'elle est là, ben, l'obscurité s'enfuit. Les ténèbres disparaissent, il n'y a plus de nuit. Il suffit d'allumer une lampe dans une pièce noire, ça y est, la pièce est éclairée. Mais dans notre monde, cette lumière, elle a aussi un inconvénient. Car dès qu'elle s'éteint, eh ben, ce sont les ténèbres, la nuit qui reprend ses droits. Et à part quelques exceptions près, comme les vers luisants ou les matières phosphorescentes, le fait que les ténèbres ne reçoivent pas ou ne captent pas la lumière bah, est un phénomène finalement physique qu'on conçoit et qui est tout à fait normal. Oui, le fait que je dis, hein, qu'il fasse nuit dans une pièce, bah, ça ne nous étonne pas s'il n'y a pas lumière. Mais il me semble là que Jean fait aussi ce constat au verset 5. La lumière s'est révélée et elle n'a pas été captée. Alors bien sûr, Jean fait le parallèle là avec Jésus qui, lui, on le sait, est la lumière du monde. Et cette lumière qui n'a pas été reçue, Jésus n'a pas été reçu par les hommes et cela a amené jusqu'à la croix où il est mort pour nous. Mais avec Dieu, c'est ça qui est beau, il y a toujours des exceptions. Et ceux qui ont capté cette lumière, qui croient en son nom, car Jésus est la lumière de ce monde, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ainsi, devenir enfant de Dieu, ben, c'est vraiment pas une petite œuvre de Dieu que finalement qu'on pourrait laisser passer comme ça inaperçu. Tout comme la création ou la lumière que tout homme ne peut ignorer, les enfants de Dieu sont sur la terre, parmi les hommes, vraiment une réalité lumineuse qui témoigne de son œuvre. Car ils ont eux-mêmes préalablement reçu cette lumière. Et le fait d'entendre cette parole, et surtout de recevoir cette lumière, ben, nous donne le pouvoir de devenir ses enfants. Ainsi, les enfants de Dieu ont de grandes différences par rapport aux autres humains. Non seulement par leur identité particulière, mais les enfants de Dieu sont différents, car comme là le précise Jean, ils ne sont pas nés du sang ou de la volonté de la chair ou celle de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Parce que ce n'est pas rien d'être enfant de Dieu. Ce n'est ni plus ni moins devenir héritier de la nature divine, de la nature de Dieu lui-même. Et cela, c'est être aussi admis dans la famille des croyants. Alors, devenir enfant de Dieu est conditionné d'une part par le pouvoir de la parole de Dieu qui a été reçue, il faut avoir entendu, et non seulement l'avoir entendu, mais recevoir cette parole. C'est cette parole miraculeuse que Dieu parle et puis la chose arrive. Et d'autre part, par la lumière, cette nouvelle vie que Dieu veut pour tous les hommes. Alors je tiens à préciser que notre naissance, notre venue dans ce monde, est bien sûr voulue par Dieu. Et ceci malgré le fait que nous naissons tous pécheurs. Et le fait de naître pécheur, ben, ça pourrait être vraiment un prétexte pour Dieu de nous anéantir, de nous punir là, tous sur le champ, puisque lui, il est le péché. Et que nous, ben, si on porte le péché, on est haïssable. Et Dieu peut nous punir parce qu'il est le péché. Mais chaque humain, qu'il soit, est précieux aux yeux de Dieu. Mais plus que la vie terrestre, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils deviennent ses propres enfants, et ça pour l'éternité. Donc quand on considère vraiment à quel niveau Dieu situe cette naissance, non pas simplement des hommes, mais la naissance d'enfants de Dieu, eh bien on ne peut que s'incliner. On ne mérite rien de cela. Au contraire, mais dans sa grâce, Dieu rend possible mon adoption. Au même titre qu'il a rendu possible la création de notre monde et au même titre que la lumière, lui, dans les ténèbres. Notre adoption par notre Père dans le ciel tout comme la création ou tout comme la lumière, c'est un acte majeur, vraiment, de l'œuvre de Dieu. Alors, l'apôtre Jean, il se faisait appeler l'apôtre Jean le disciple que Jésus aimait. A particulièrement été marqué par cette révélation de la parole. Et il donne un peu plus de détails dans sa première épître, et vraiment il continue d'être dans cette contemplation devant autant d'amour de la part du Père. Et je vous propose maintenant la lecture dans la première épître de Jean, le chapitre 3, versets 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Quand nous lisons ces versets, on dirait que Jean, on dirait qu'il a découvert une merveille. Voyez cet amour. Dieu m'appelle son enfant. Et devant cette découverte hallucinante, il se reprend finalement, mais il constate qu'il n'est pas seulement appelé enfant de Dieu, mais qu'il est vraiment. J'ai mis en évidence, et nous le sommes, mais je suis vraiment enfant de Dieu. Je réalise que je ne suis pas seulement appelé, mais que je le suis vraiment. Et là, il y a peut-être une différence. Parce que Jean a peut-être eu auparavant du mal à réaliser ce que devenir enfant de Dieu représentait, mais je crois que pour nous aussi, c'est aussi la même chose. Se faire appeler enfant de Dieu lorsqu'on devient chrétien, ça nous semble tout à fait naturel. C'est quelque chose qui est vrai et que nous comprenons assez bien. Mais réaliser que nous le sommes vraiment et que cela vraiment a un effet de transformation sur notre façon de vivre, ça c'est encore un pas supplémentaire. Être enfant de Dieu signifie que nous sommes des personnes vraiment très très spéciales. Bien sûr, on n'y est pour rien. Cela n'empêche que cette nouvelle identité que Dieu nous donne change tout de notre vie. D'enfant de la chair, né dans ce monde, on est devenu, par la volonté de notre Dieu, ses propres enfants. Notre cœur était sombre, il a fait briller sa lumière. Et désormais, cette lumière, rien ne peut l'éteindre. Cette lumière est captée. Nous étions des enfants destinés au péché, autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est Paul, dans son épître de Tite 3, verset 3, qui fait cette triste énumération. Mais je ne sais pas si vous regardez bien, si vous avez bien entendu ce que j'ai lu, il emploie le passé. Il dit « nous étions ». Maintenant, ça s'est terminé. Nous sommes avant tout enfants de Dieu. Et nous héritons, comme des enfants adoptés et voulus par lui, d'une nouvelle identité et d'un nouveau nom. Et non seulement cela, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous fait hériter de sa propre nature. Cette même lumière qui a animé son fils premier-né, et c'est vraiment là que se situe la clé de l'œuvre du Fils de Dieu. Combien d'hommes sur la terre se font appeler fils de Dieu? Et combien le sont vraiment? C'est seulement grâce à ce que Jésus a fait que nous sommes seulement appelés. Que nous sommes non seulement appelés, mais que nous sommes vraiment fils de Dieu. Et cette vie d'enfant de Dieu se caractérise par toute l'énergie de notre nouvelle nature divine. Et cette nature divine, c'est le Saint-Esprit qui la dynamise et qui permet à nos vies d'envisager maintenant autre chose que vraiment la spirale du péché que peut-être on peut connaître. Et ça, c'est encore une qualité aussi que seul l'enfant de Dieu dispose, c'est qu'il a la possibilité de se libérer de la pratique du péché. Bien sûr, le chrétien, comme tout homme, est libre de se laisser asservir par le péché et de continuer à vivre selon ses passions, telles que Paul les énumère à Tite. Mais à ce moment-là, que fait-il de son statut d'enfant de Dieu et de tous les intérêts de la présence du Saint-Esprit en lui? Non, le chrétien, vraiment, comme l'envisage le plan de Dieu, grâce à sa nouvelle identité d'enfant de Dieu, est rendu libre de tourner le dos à toutes ses pratiques. Et ça, il n'y a que l'enfant de Dieu qui a cette liberté. Tous les autres hommes qui ne sont pas enfants de Dieu, qui disent qu'ils sont libres, là, ils se leurrent. Voilà pourquoi Paul se permet de considérer les attitudes de péché comme étant le passé. En même temps que nous avons répondu à l'invitation de Dieu de devenir son enfant, nous détenons tous les droits de profiter vraiment d'une relation spéciale avec notre nouveau Père. D'enfants dans la chair, nous sommes transformés par pure grâce en enfants de Dieu. Et voilà vraiment une réalité qu'il est important de se rappeler. Et comme le dit Jean dans ces versets, nous avons l'espérance future que nous serons transformés à l'image de Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais en attendant, quel est notre espoir? Avant ce temps où nous le verrons tel qu'il est. Et ça, c'est le verset 2, en attendant maintenant, le verset 2 dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Comme Jean, vraiment, laissons-nous submerger par cette révélation. Avant la révélation de la parole, le message de la loi dictait les œuvres qu'il fallait faire pour être enfant de Dieu. Mais désormais, avant tout, nous sommes avant de Dieu, enfants de Dieu. Et maintenant, nous pouvons faire ces œuvres bonnes que Dieu a préparées. Et le dernier verset que j'ai lu, le verset 3 de ce passage, apporte encore une précision supplémentaire sur l'effet que produit concrètement sur nous ce statut d'enfant de Dieu. Celui qui place sa confiance dans le fait qu'il est enfant de Dieu se purifie, comme le Seigneur est pur. Vous savez, c'est le désir de tout homme de se sentir pur, et même celui du pécheur le plus endurci sur cette terre. Certains s'interrogent au sujet de l'essor que prennent certaines religions humaines, mais ce qu'elles proposent ne sont ni plus ni moins des méthodes, loin d'être gratuites, destinées soi-disant à purifier les fidèles. La pureté dans tous les domaines, c'est un outil marketing très efficace. Alors si vous arrivez à imaginer un moyen de purifier les âmes, et tout en flattant l'ego de ceux qui se purifient, là vous avez trouvé la poule aux œufs d'or. Le problème, c'est que ce n'est pas possible. C'est une utopie. Car dès que vous flattez l'ego, ou vous le brossez dans le sens du poil, vous ne purifiez pas votre âme, mais au contraire, vous la souillez. Combien de fausses idéologies sont basées sur ce principe? Parce que dans la révélation de la parole, c'est un homme, le Fils de Dieu, qui est venu purifier les pécheurs. C'est par sa mort que nous avons la vie. Oui, il est venu dans la faiblesse dénoncer justement toutes ces idéologies qui étaient basées sur l'autosuffisance des hommes à se sauver eux-mêmes. Et quelle critique il faisait lorsqu'il dénonçait les aveugles, conducteurs d'aveugles. Évidemment, cela n'est pas flatteur pour l'homme. Mais qui mieux que Jésus, qui a souhaité notre vie, peut nous conduire sur ce chemin qui nous ramène vraiment vers notre Père? Comme Jean, quel bonheur vraiment de faire cette rencontre, et plus encore de réaliser ce que nous sommes pour notre Père céleste, ses propres enfants. Alors évidemment, dans tous les domaines de notre vie, notre intelligence est à renouveler pour que notre mode de fonctionnement se cale sur ce nouveau principe où tout est grâce. Nous ne méritions pas d'être enfants de Dieu. Mais justement, le plan divin est que nous réalisions concrètement qui nous sommes pour que nous vivions vraiment conformément à la façon dont nous percevons. Là, c'est toute la clé aussi. Si on se perçoit toujours comme des pécheurs, cela veut dire que nous nous considérons toujours avec une identité d'enfant de la chair, pécheur. La conséquence, c'est qu'on continue à pratiquer ce que nous sommes. Si je suis enfant de la chair, je pratique les œuvres de la chair. Et donc, on n'arrive pas à maîtriser notre tendance sur le péché. Et nos vies, finalement, sont pleines d'échecs à répétition. Et on entre comme ça, au fil du temps, un cycle malsain de culpabilité. Mais alors qu'est-ce qu'on fait là de cette espérance de l'enfant de Dieu qui se purifie? En effet, si nous nous percevons enfants de Dieu, saints, aimés de Dieu, ben là, je pense vraiment, et je ne suis pas le seul à le penser, il sera plus facile de vivre comme un enfant de Dieu. Le fait de réaliser que je suis vraiment, évidemment, vraiment un enfant de Dieu, a évidemment un impact sur mes actes. Et ceci, même s'il m'arrive de pécher à nouveau, parce qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui atteste que je suis, et encore, enfant de Dieu auprès de lui. Et si mon identité d'enfant de Dieu est pleinement assumée, à ce moment-là, c'est le fruit de l'esprit que je pratique. Ce n'est plus les œuvres de ma chair. Et donc, peu à peu, c'est à chacun de nous de laisser transformer nos vies en fonction vraiment de notre glorieuse identité. C'est notre identité. Et Thibault nous l'a rappelé. Quelle est notre identité? Où est-ce que je mets mon identité? Dans ce que je fais ou dans ce que je suis? Pour résumer, dans le royaume de Dieu, tout ce que nous le faisons en fonction de ce que nous sommes. Donc dans le royaume de Dieu, dans la perception de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Je fais ce que je suis. Et le contraire est faux. Ce n'est pas ce que nous faisons qui fera de nous que nous serons enfants de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas sur ce principe vraiment que le monde qui nous entoure fonctionne. Les personnes sont de plus en plus qualifiées ou jugées en fonction de leurs actes et non pas en fonction de ce qu'elles sont vraiment. Et même les professions qui jadis imposaient le respect par leur statut, comme les autorités, la justice ou les médecins, ne sont plus respectées par ce qu'ils sont. Mais comme beaucoup, maintenant, ils sont respectés par ce qu'ils font. Je ne voudrais pas trop rallonger, mais on peut voir vraiment l'impact pratique que cela a dans nos vies, dans nos caractères. Le fait que cette adoption par notre Père, tout ce que cela induit, grâce à cette adoption par notre Père céleste, le changement radical de notre identité n'a pas d'autre conséquence que de convertir notre façon de voir les choses et notre façon de vivre. Jean, quand il proclame haut et fort que nous sommes enfants de Dieu et que nous le sommes vraiment, c'est qu'il avait vraiment là pleinement réalisé ce que cela voulait dire. Mais comme nous, à certains moments, Jean a écouté ses raisonnements propres et a mis en doute la capacité de Dieu à changer sa nature. Mais qui est-ce qui est menteur? Dieu qui fait de nous ses enfants ou notre intellect avec tous ses raisonnements qui relativise la portée de la vie que nous avons reçue? Alors comme Jean, vraiment laissons-nous émerveiller et gagner par cette vie d'enfant de Dieu. Cette vie d'enfant de Dieu, je le rappelle, c'est cette nature divine qu'il a mis en nous. Et finalement, voilà, la question elle se pose à chacun de nous. C'est quoi mon identité? Est-ce que c'est cette vie divine là? Et la parole, Dieu, le Saint-Esprit en moi, l'atteste et le confirme. Ou est-ce que c'est mes raisonnements, mon impression, le politiquement correct de ce monde qui dit non, c'est pas vrai. C'est ma vie, c'est mes péchés, c'est ça qui dirige ma vie. Non, ça c'est un mensonge. Alors les vacances sont propice à mener cette réflexion, de prendre un temps pour chacun de vous aussi pour mettre cela dans la balance de votre cœur, avec pour juge notre Dieu qui connaît mieux que nous qui nous sommes et ce dont nous sommes faits. Mais quoi qu'il en soit, cette vie qu'il a mis en nous, elle est là plus que tout une réalité. Et cette réalité, il faut qu'elle prenne corps maintenant avec tout. Avec tout notre être tel qu'il est. Il faut que ce ne soit pas seulement une vie, comme ça, je dirais, mystique, mais une réalité concrète qui transforme nos actes, qui transforme notre façon de voir les choses, qui transforme notre regard sur nos frères et sœurs aussi, qui sont comme nous, habités de cette vie. Tout cela, c'est un programme, c'est quelque chose qui est en route et que le Seigneur veut nous faire grandir peu à peu. Il ne veut pas nous bousculer, il ne veut pas nous... nous agresser, pour que nous contraindre par force à comprendre ces choses-là. Mais peu à peu, pas à pas, il nous fait avancer chacun. Je veux finir par la prière. Oui, Père, nous voulons vraiment te rendre grâce pour cette œuvre de grâce que tu fais en chacun de nous pour nous transformer. Tu vois le poids de nos péchés, tu vois le poids de ce monde qui peut nous faire du mal, nous altérer, nous décourager dans notre vie. Mais au-delà de ça, il y a cette vie, cette énergie, ce Saint-Esprit que tu as mis en nous, qui veut nous transformer, qui veut changer tout de notre vision, de notre perception et même notre perception de toi. Oui, merci Père, parce que tu es proche de nous. Tu es ce Père qui a encore de la patience, qui use de miséricorde pour chacun de nous. Et nous, on veut vraiment te louer pour cela. Mais on veut encore apprendre à grandir, encore apprendre avec toute la simplicité et l'humilité que toi tu as eue, que ton Fils a eue en venant sur la terre. Eh bien, nous voulons être dans cette patience, dans cette paix, parce que tu amènes toutes choses parfaites. Et nous voulons nous confier encore à toi. Aide-nous dans cette semaine. Et quand on pense aux enfants de Dieu, on ne peut pas oublier vraiment tous tes enfants qui sont en Irak et qui sont sur les chemins, qui sont dans la fuite et qui souffrent et qui sont là devant un choix crucial, la vie, la mort ou se convertir à l'islam. Il n'y a que cette alternative à vue humaine. Et c'est pour ça qu'on fait appel à toi, à ton miracle, pour que l'autre alternative, ce soit une délivrance, un miracle de ta part. Oui, nous voulons vraiment nous appuyer sur toi, que là où ils sont aussi, tu les bénisses, tu les fortifies. Oui, Père, nous te prions vraiment pour nos frères là, et sœurs qui sont dans cette détresse, qui ont soif, qui ont faim, qui ont peur, et que tu les soulages, que tu sois près d'eux encore pendant cette semaine. Sois encore aussi après, avec chacun de nous, durant cette journée, durant cette semaine, bénis-nous, bénis encore ta parole, nous avons reçu de ce matin. Merci pour ce moment de communion que nous pouvons encore partager. Et nous voulons tout te prier, Seigneur, encore au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bonjour. Je partage avec vous les annonces. Alors, je vais partager les annonces pour la quinzaine qui vient. Tout d'abord, mardi 19, donc ce mardi, une cellule ouverte. Cellule ouverte pour le secteur sud du Pays de Gex, donc Farges, Perron, Collonges. Pierre, elle se fait chez qui ? Chez vous, hein, donc chez Pierre et Déborah. Samedi prochain, la retraite du conseil. C'est la deuxième fois qu'on l'annonce, il n'y a pas eu de retraite, c'est simplement qu'elle a été reportée. Donc on l'aura samedi prochain. Dimanche prochain, culte. Alors le culte, c'est un petit peu particulier, il n'y aura pas de culte ici. Donc ne venez pas à Prévesin au culte, il n'y aura pas de culte, ce sera fermé. On fait un culte à la montagne. Cette année, il fait beau tous les dimanches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc dimanche prochain, il fera beau. Culte à la Lécherolle. Donc le culte a lieu à 11h. Alors on se gare sur le parking de la Vatée. Si quelqu'un ne sait pas exactement où c'est, venez trouver quelqu'un à la sortie du culte. On se gare sur le parking de la Vatée, on peut y être à partir de 10h. Il y a des transports qui sont organisés, en tout cas pour les bagages, aussi pour les personnes qui ont de la peine à marcher, puisqu'il y a environ un petit kilomètre jusqu'au chalet. Et puis, il faut arriver avant 10h30, parce qu'après 10h30, il faudra venir à pied, puis ça va être limite pour être à 11h pour le culte. Prenez votre pique-nique. Si toutefois, il y avait un risque au niveau de la météo, eh bien, je vous propose que vous me téléphoniez le matin, et puis je ferai le point avec les amis là-haut pour voir qu'est-ce qu'on fait, si on maintient ou si on ne maintient pas. Le mardi de la semaine d'après, donc le 26, à 14h30, l'étude biblique des aînés, qui n'a pas arrêté pendant l'été. À 20h30, de nouveau une cellule ouverte de Gex. Donc ces cellules ouvertes, c'est important pendant l'été, puisqu'on est un petit peu moins nombreux vu qu'il y a des vacances, c'est important qu'on puisse avoir des échanges. Donc ces cellules ouvertes, elles sont là pour que tout le monde puisse participer. Ça permet aussi de faire connaissance entre les cellules et c'est toujours très intéressant. Donc, et la cellule de mardi prochain et celle de mardi dans 10 jours sont des cellules ouvertes. Donc, bienvenue à tous. Le jeudi d'après, le jeudi 28, reprise de la chorale. La chorale reprend assez tôt cette année. Par contre, elle reprend tôt parce qu'il y a un super projet qui se met en route. Alors, si des personnes veulent encore se joindre à la chorale, il y a de la place. N'hésitez pas. J'en dis pas plus. Comme ça, je vous donne envie de participer. Jeudi 28, donc, la reprise de la chorale. Pas d'autres annonces pour ces deux prochaines semaines, il ne me semble pas. Sinon, notre week-end au Col des Mosses à la mi-septembre. Le cours qui commence pour Alpha Couple, cours Elle et Lui, dans le cadre de la pastorale qui se fait. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez y participer. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vais lire encore deux versets dans Éphésiens. Éphésiens 3, les versets 20 et 21. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Bonne semaine, bon dimanche.